ce matin donc, cela ne vous étonne pas que si je dis que nous avons affronté jusqu'à ce jour un défi en tant qu'église locale, hein, c'est pas un mot vain. Oui, depuis peu, hein, du départ de la famille Cole, tout a changé, et je dirais un peu plus loin, le départ de notre frère Robert Bixby. Tout a changé pour nous et nous avons traversé ces épreuves. Et depuis dernièrement, donc, des choses ont été mises en place au sein de l'Assemblée dans l'objectif pour que l'Assemblée puisse fonctionner en autonomie. Et ça continue. La preuve que nous sommes là encore aujourd'hui. Je dirais, en tant que votre pasteur, je peux dire qu'il y a des choses qui se sont bien passées. L'implication de quelques hommes dans la prédication, dans la présidence, l'implication des hommes, des femmes, en tant que moniteurs de l'école de dimanche, l'implication des femmes dans la garderie, sans oublier d'autres ministères qui se passent, je dirais, dans les coulisses, comme la préparation de la salle du culte par des hommes tôt le dimanche matin. Si vous avez des chaises là, vous avez tout prêt, les cantiques, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Et ça, c'est dans les coulisses, si je peux dire. Mais il y a encore d'autres choses que je sais invisibles, mais combien importantes, comme le soutien dans la prière quotidienne pour les uns les autres, en tant que frères et sœurs en Christ. Par les SMS, par mail, et qui n'est pas seulement le rôle du pasteur, mais le rôle de chacun des membres du corps de Christ. Je vois l'assistance à réunion de prière qui commence à être de plus en plus fréquentée, mais maintenant il faut y persévérer. Le ministère d'accompagnement du culte par les pianistes, imaginez que nous chantons surtout avec ma voix les fausses notes, qu'est-ce que ça produira? Mais il y a eux qui est un ministère très important d'accompagnement dans le culte d'adoration que nous avons chaque dimanche matin. Sans oublier, chose importante, l'évangélisation personnelle, je sais. Que là, beaucoup d'entre nous profitent de toute occasion pour parler du Seigneur, témoigner de leur foi. Je dirais même ce ministère qui est aussi visible à travers le ministère de l'Évangile par l'Église. Et je dirais, nous pouvons rendre gloire à Dieu et remercier notre Seigneur qui a donné le vouloir et le pouvoir. Mais attention, nous ne faisons pas d'angélisme. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées. Il y a des moments de déception, les frustrations, et même, je dirais, des colères. Attention, quand je dis ça, ça n'amoindrit en rien les choses qui se sont bien passées. Mais ces choses nous amènent à réfléchir. Mais qu'est-ce qui manquait? Et quand je dis réfléchir, on ne peut pas réfléchir sans la parole de Dieu, qui est la norme, je dirais. Et nous devrions nous mesurer avec la parole de Dieu pour voir ce qu'il faut améliorer. Parce que le but de l'existence d'une église, c'est de refléter le caractère de Dieu. Et je dirais donc, pour réfléchir bien, il faut connaître les normes de Dieu par lesquelles nous devons nous mesurer. Sinon, il y a deux extrêmes. Soit, d'un côté, nous serons trop durs, trop sévères avec nous-mêmes et nous vautrer dans notre misère. Et on va commencer à montrer des doigts ici et là. Oui, il n'a pas fait ça, le pasteur. Regarde l'état où se trouve l'église. Mais de l'autre côté, nous risquons d'être trop contents de nous-mêmes et de ne pas voir où devons nous changer, où est-ce que sont nos fautes. Donc, il ne faut pas que nous nous culpabilisons, mais il ne faut pas aussi que nous nous félicitons trop. Vous voyez cet équilibre, hein? Et quand je parle de normes de Dieu, j'aimerais vous inviter à chercher dans votre Bible, dans Éphésiens 4, versets 1 à 6. Les normes par rapport auxquelles nous devrons nous ajuster, et surtout ce matin je veux parler de l'unité de l'Église. Et Dieu dans sa parole nous montre des traits de caractère, je dirais, les normes qui doivent régir nos relations au sein de l'Église pour pouvoir garder l'unité. On lit ensemble ce passage de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Il faut quand même faire un rappel que dans les trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, Paul explique ce que Dieu a fait pour l'assemblée des chrétiens dans la ville d'Éphèse. Ce que Dieu a fait et ce qu'ils sont devenus en Christ. Or, en survol, il leur a parlé du plan éternel de Dieu pour son peuple. Dans un autre chapitre, il leur a expliqué comment l'humanité rebelle à Dieu à cause du péché peut être réconciliée avec Dieu en Jésus-Christ. Il parle aussi des croyants comme ceux qui sont élus avant la fondation du monde. Que Dieu a un plan qu'il a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et je dirais, Paul saute de joie et exprime la magnificence de ce que Dieu a fait pour nous. Et puis, il se tourne vers la réponse de ses destinataires par rapport à ce que Dieu a fait pour eux, ou pour nous aussi. Et c'est pour cela qu'au verset 1, il exhorte ses chrétiens à marcher digne de la vocation qui leur a été adressée. Quand Paul parle de notre vocation, nous sommes appelés à être des enfants de Dieu, puis nous sommes appelés à vivre comme enfants de Dieu. C'est-à-dire, il parle de ce que nous faisons dans notre vie à cause du fait que nous sommes enfants de Dieu. Et je dirais, j'aime beaucoup ce commentateur qui formule les choses notre vocation n'est pas simplement d'être sauvé, j'ai le billet dans la poche pour aller au ciel, ou d'être heureux pour l'éternité, mais de participer avec le corps entier, l'Église, à rendre gloire à Dieu. Et l'Épître aux Éphésiens, donc, nous voyons la pièce maîtresse, c'est l'Église, c'est le lieu parfait pour mettre en pratique ce que Paul dit dans les versets que nous venons de lire, versets 1 à 6. Donc, le caractère de l'Église se révèle dans nos relations les uns avec les autres. Et donc, ce matin, nous allons nous poser la question, quelles sont les choses qui doivent caractériser nos relations pour garder l'unité de l'Église. Et j'intitulerai en passant ce message « Comment garder l'unité dans l'Église ?» Et je vois dans ce passage des traits de caractère qui doivent imprégner et qui doivent régir notre relation en tant que frères et sœurs. D'abord, il parle de l'humilité et douceur. Verset 2, il parle de patience au verset 2 et support les uns les autres et finir par l'unité de l'esprit. Donc on va voir ces points rapidement les uns après les autres. Mais vous vous dites, mais là, je connais toutes ces choses. Vous avez raison, oui. Mais il ne faut jamais oublier une question et qui est toujours actuelle entre ce que nous savons et ce que nous faisons de ce que nous savons. Comment est-ce que nous les pratiquons de jour en jour dans la vie de l'Église depuis ça? Ça, c'est la vraie question. Entre ce que nous savons, comment cela se traduit dans nos comportements au sein de l'Église, la pièce maîtresse dans laquelle Dieu veut voir régir et ses traits de caractère. Donc, commençons par le premier, l'humilité et douceur. Donc, il exhorte donc à marcher digne hein, et en toute humilité et douceur. Dans le contexte de l'Église locale, l'humilité nous apprend à être à l'écoute les uns les autres, n'est-ce pas? Il faut de l'humilité. Pourquoi? Parce que les autres nous aident parfois à mieux nous connaître. Ils nous voient parfois comme nous sommes réellement. Ils voient notre humeur, notre sensibilité, et ils peuvent nous aider dans leurs remarques ou commentaires. Aïe, aïe, aïe. Vous le prenez si bien quand on vous dit quelque chose? On le prend mal, hein, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on a besoin de l'humilité. C'est là que se trouve l'humilité dans nos relations dans l'Église. Et je dirais la personne humble est prête à recevoir des remarques et analyse ce qui est dit et prête à appliquer ce qui est bon, même si ça fait mal à notre chair à cause de l'orgueil. Je trouve formidable. Hein? Dieu a placé dans l'Église nos frères et sœurs que nous ne l'avons pas choisi. Ce sont des enfants de Dieu comme nous. Il l'a placé là et vous êtes là aussi. Et pour que nous apprenions à mettre en pratique dans nos relations ce que c'est la vraie humilité. Je dirais une personne humble peut aussi donner des remarques, pas seulement recevoir. Des remarques, mais avec un esprit, donner des remarques avec un esprit d'amour, sans vouloir casser et humilier l'autre, sans que l'on se considère au-dessus de l'autre. Et Paul, dans l'Épître aux Philippiens, parle bien de cela, que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Philippiens 2:4. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'apôtre Paul parle de l'humilité avec la douceur. Et la douceur, ça se voit dans nos réponses, nos paroles. Il faut que nos commentaires, nos remarques soient doux. Et vous savez, la douceur, c'est un trait de caractère qui n'est pas trop prisé. Parce qu'on y voit un signe de faiblesse, mais le terme douceur dans la Bible n'indique pas du tout un terme de faiblesse. C'est au contraire une force de caractère. Pourquoi? Parce que la douceur indique un caractère mesuré. Indique la puissance maîtrisée. Je vous en ai parlé du cheval, la puissance qu'il avait, ce cheval. Mais quand il est dressé, dompté, le maître peut canaliser cette énergie que le cheval peut avoir et le guider là où il veut. C'est la puissance maîtrisée, le contrôle de soi. Mais tant qu'un homme doux, une femme douce, s'abstient de réagir face à la provocation, face à la moquerie, aux injures. Pourquoi? Parce qu'il ne se laisse pas contrôler par ses impulsions ou ses sentiments de volonté de puissance. Vous savez, qui est la personne que la Bible qualifie de doux et humble par excellence? Jésus. Et oui, Jésus lui-même dit, je suis doux et humble de cœur. Imaginez qu'on vous parle de cela, une personne, je suis doux et humble de cœur. Vous ressentez tout de suite l'orgueil, n'est-ce pas? Pourquoi il prétend se montrer comme ça? C'est de l'orgueil. Mais non, pour le Seigneur, la douceur et l'humilité, c'est quelque chose qui était une décision volontaire de sa vie. Il a pris la décision d'être humble, d'être doux, quelles que soient les circonstances. Exemple tout simplement, en 1 Pierre 2:23, en parlant de la souffrance de notre Seigneur, lui qui injuriait, ne rendez point d'injure. Maltraité, ne faisant point de menace. Et Philippiens 2, verset 6, hein, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Lui-même, ça veut dire volontairement il s'est dépouillé. Il a mis de côté tout ce qui est prérogative divine qu'il avait à cette gloire hein, depuis toute éternité auprès du Père. Et il dit encore, il s'est humilié lui-même. Jésus, quand il s'humilie, il a pris la décision volontaire de s'humilier. Donc c'est une décision volontaire, c'est un choix. Et Paul là, va, après avoir décrit l'exemple du Seigneur, il dit aux chrétiens de, dans la ville de Philippe, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce que nous venons de voir, son humilité. Oui, la question, est-ce que notre assemblée est-elle empreinte de tels traits de caractère dans ses rapports les uns les autres? Nous ne pouvons que nous examiner nous-mêmes devant la parole de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu sonder nos cœurs. J'aime beaucoup ce psalmiste David qui disait « Sonde-moi, ô Dieu, scrute-moi, ô Dieu, si vous voulez. Connais mon cœur et éprouve-moi et connais mes pensées. » J'ai besoin de cet examen personnel. Où j'en suis par rapport à ce trait de caractère dans mes rapports les uns envers les autres. Pourquoi elle est importante? Parce que c'est un ingrédient pour garder l'unité dans l'église locale. Regardons, selon le passage que nous venons de lire aussi, un deuxième trait de caractère pour garder l'unité dans l'église, avec patience. Avec patience. J'aimerais vous raconter une histoire juive traditionnelle. Peut-être vous le connaissez cette histoire. Un jour, Abraham, il s'est tenu devant sa tente et c'est très connu donc par les juifs. Hein, il voit un vieil homme fatigué après un long voyage. Et Abraham se lève pour accueillir le vieillard. Il l'a invité à venir manger chez lui. Et le coutume dans ces endroits-là, c'est qu'il lui lave les pieds. Et puis, il donne quelque chose à manger à ce vieillard. Vous savez, tout de suite, le vieillard, il se met à manger sans même rendre grâce à Dieu. Ah, ça a choqué Abraham. Abraham lui demande, mais vous n'adorez pas Dieu? Et l'homme répond, je ne rends culte qu'au feu. Et vous savez, la réaction d'Abraham avec cette réponse du vieillard, il s'est mis en colère. Et il a mis dehors le vieillard. Qu'est-ce qui s'est passé? Peu après, Dieu vient voir Abraham et lui demande, où est le vieil homme? Et Abraham dit à Dieu, je lui ai mis dehors parce qu'il ne t'adore pas. Et Dieu dit à Abraham, écoutez bien, je l'ai supporté pendant 80 ans et tu ne peux pas le supporter pour une soirée? Oui, la patience suppose que parfois il est difficile de vivre avec d'autres personnes, n'est-ce pas? Abraham, juste une soirée, il l'a mis dehors. C'est vieillard. Vous savez, il est parfois difficile de vivre avec d'autres personnes, même dans l'église. Même dans l'église. Chers amis, être patient, c'est plus que juste cacher les mauvais sentiments. C'est pas que je suis patient quand je cache ce qui bouillonne à l'intérieur. C'est pas ça, être patient. Être patient, la patience est active. C'est la décision de ne pas se laisser irriter. Vous voyez? C'est plus que se laisser contenir ce bouillonnement à l'intérieur. C'est prendre la décision que, quelles que soient les circonstances, j'ai pris la décision de ne pas me laisser irriter. Vous voyez? La décision d'être lente à la colère. Et oui, pourquoi la patience est importante dans les caractères qui doivent régir nos relations pour garder l'unité? Parce que l'esprit impatient détruit l'unité de l'Église. Et vous voyez, ce passage nous montre bien que ce sont les attitudes d'humilité, de douceur, de patience qui encouragent l'unité parmi les chrétiens. Il y a ces trois vertus donc. Retenez bien l'humilité, douceur, patience. Après les avoir mentionnées, maintenant Paul, dans la suite du verset, explique de quelle manière elle devrait se manifester dans la conduite du croyant. Vous voyez? Après les avoir décrits, maintenant elle va dire de quelle manière elle devrait se manifester dans la conduite du croyant. Et la réponse, vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce qui nous amène à considérer Le troisième trait qui doit caractériser nos relations pour garder l'unité, le support les uns les autres. Vous supportez avec patience les uns les autres dans l'amour. Pourquoi se supporter les uns les autres? Parce que les chrétiens qui sont appelés à maintenir entre eux l'unité ne sont pas parfaits. On doit le reconnaître. Ni les uns, ni les autres. Si nous voulons que nos frères nous pardonnent nos défauts, nous devons aussi avoir de l'indulgence pour les leurs. Regardez Colossiens 3, 13 et 14. Supportez-vous, vous voyez bien, c'est la même chose dont on parle. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et là, on va se servir de l'exemple. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Dans l'amour, se supporter comment? Dans l'amour. Ou avec amour. Pourquoi c'est si important? Parce que l'amour est la base de la famille humaine, n'est-ce pas? Comme il en est de la famille spirituelle. Lorsqu'il manque, rien ne subsiste. Pourquoi? Parce que l'égoïsme, la rancune, les personnalités vont s'affronter. Et je dirais, excusez-moi de l'expression, la vie communautaire devient un enfer. Je dirais que Dieu préserve l'église de Pessac de telles choses, et je remercie le Seigneur qu'il n'en soit pas ainsi. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Et aussi l'apôtre Paul dit aux Colossiens, après leur avoir commandé aux Colossiens 3, 12, de se vêtir de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et il dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Revenons à Éphésiens chapitre 4. Et vous savez, quelques versets plus tard, Paul va dire, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Parce qu'il vise la maturité, il vise la croissance de l'Église. Et ici, je voyais quelque chose qui est souligné dans ce que Paul est amené à nous rappeler. Il y a un risque, il parle de vérité dans l'amour. C'est très important. Parce qu'il y a un risque de vouloir sauvegarder avant tout la vérité en oubliant l'amour fraternel. Vous pouvez avoir une belle doctrine, très biblique, mais cela devient froide et repoussante s'il n'y a pas l'amour. Mais de l'autre côté, l'autre danger aussi, c'est de vouloir s'unir à tous avec une grande charité et on ferme les yeux sur les choses qui doivent être corrigées, qui doivent être faites. Parce qu'on vise l'amour à tout prix au détriment de la vérité. Donc vous voulez, vous voyez, il y a deux extrêmes. Et donc que nous prions Dieu de nous garder de ces deux dangers, je pèse mes mots, mortels, l'amour sans vérité et la vérité sans amour. C'est très important. Que c'est ce qui est souligné ici, c'est le lien de la perfection, l'amour qui est le lien de la perfection, comme nous venons de voir. Mais toujours faire attention à ces deux dangers mortels, l'amour sans vérité et la vérité sans amour. Et ce qui nous amène au dernier point, comment garder l'unité dans l'Église? Un dernier trait de caractère que je vois dans ce passage, l'unité de l'esprit. Attention, l'unité de l'esprit ici diffère d'avec, je dirais, l'unité ecclésiastique, c'est-à-dire l'œcuménisme. Quand Paul parle de l'unité de l'esprit, il enseigne ici celle qui règne entre tous les membres du corps de Jésus-Christ. Celle qui unit tous les vrais croyants. Et non pas l'œcuménisme en un grand rassemblement des personnes croyants et non-croyants. Ce qui me frappe ici, vous avez remarqué que Paul dit conserver l'unité. Implicitement, ça veut dire que l'unité existe déjà, n'est-ce pas? Notre unité vient du fait que nous sommes membres de la même famille, le même corps, l'Église. Et dans les versets qui suivent, à partir du verset 3, nous avons exprimé le même salut, nous avons la même foi, nous avons passé par le même baptême, nous avons tous le même avenir, la même espérance de la gloire. L'unité n'est pas créée, elle est déjà établie par Dieu. Ce qui nous incombe maintenant, c'est de la vivre, je dirais aussi fracturée, aussi imparfaite que notre unité visible soit-elle. Mais on doit la vivre. Et c'est la grâce de Dieu qui nous permet de le faire. Nous pouvons la vivre parce que cette unité est enracinée, vous voyez, dans l'unité de Dieu. Et si on parle de la Trinité dans l'Épître aux Éphésiens, on le voit. Et ce n'est pas le sujet, mais nous pouvons vivre cette unité parce que c'est Dieu qui l'a créée. Et l'unité, on voit même dans la personne de la Trinité, dans ce passage. Et c'est ça qui est la base pour laquelle l'Église peut vivre pratiquement les croyants dans l'unité. Et leur responsabilité, c'est de la garder. Et pour les garder, il faut tous ces quatre traits de caractère. Mais une question se pose. Que veut dire l'unité de l'esprit? Conserver l'unité de l'esprit. Il y a deux tendances. Soit l'unité de l'esprit des hommes. Donc l'idée, c'est d'être d'accord au niveau des sentiments qui doivent régner entre les chrétiens. Accord de sentiments qui doivent régner entre les chrétiens. Quand on veut comprendre, conserver l'unité de l'esprit, l'esprit des hommes. Mais il y a d'autres commentaires, et beaucoup dans cette tendance-là, l'unité de l'esprit, ici, c'est de l'esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Et il faut entendre par là, c'est-à-dire que cette unité est opérée par le Saint-Esprit. Vous voyez les deux tendances? Il y a l'unité des hommes qui cherchent à se rassembler pour faire un semblant d'unité. Il y en a ceux qui en pensent de cela. Mais il y en a d'autres qui en pensent que l'unité ici, c'est l'unité régie et créée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire fruit créé par le Saint-Esprit. Et je dirais, dans le contexte de l'Épître aux Éphésiens, la bonne interprétation, c'est la deuxième. C'est l'unité opérée par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est décrit partout dans ce passage. Tout simplement, j'ai deux arguments que je voudrais rapidement donner. Pourquoi c'est la deuxième sens qu'il faut opter? Par l'exhortation elle-même, conserver l'unité de l'Esprit. Le fait que Paul exhorte ses chrétiens à conserver ou à garder l'unité, car ce n'est pas en leur pouvoir de créer l'unité. C'est Dieu qui l'a créée, et l'unité en question est donc l'unité qui vient de Dieu, créée par Dieu, l'unité de l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui opère pour la créer. Mais deuxième chose encore plus flagrante, on avait dit que l'homme n'est pas capable de créer l'unité, mais on lui demande de la garder, de la conserver. Et n'est-il pas remarquable de voir des allusions, toujours dans l'Épître aux Éphésiens, concernant la personne du Saint-Esprit? N'est-il pas question ailleurs, question d'attrister le Saint-Esprit? Éphésiens 4:30, vous voyez? Éteindre le Saint-Esprit, 1 Thessaloniciens 5:19. Et plus encore, en Éphésiens 5:18, les chrétiens ne sont-ils pas exhortés à être remplis du Saint-Esprit? Vous efforçons de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Donc on voit bien que le sujet qui s'attache à l'esprit ici, ce n'est pas les hommes, mais le Saint-Esprit, tout le sujet de l'Épître aux Éphésiens, qui nous donne à croire que la bonne interprétation, c'est la deuxième et non pas la première. Mais intéressant que Paul parle de l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Regardez bien l'ordre. L'ordre suivi par l'apôtre Paul. Il veut qu'on maintienne l'unité par la paix. Ça, c'est l'ordre selon l'apôtre Paul. On maintient l'unité par la paix. Et souvent, beaucoup fassent le contraire. L'ordre inverse, c'est-à-dire on cherche la paix par l'unité. C'est le contraire de ce que Paul est en train de dire. Il veut qu'on maintienne l'unité par la paix et non pas chercher la paix par l'unité. Pourquoi ? Parce qu'on croit qu'il faut commencer à se mettre d'accord et qu'alors seulement on pourrait goûter ensemble la paix fraternelle. Non, dit Paul. Au contraire, il faut commencer par la paix, l'amour, parce qu'il en a parlé aussi, et alors seulement on se mettra d'accord. Vous voyez le raisonnement ? Très profond. Au contraire, il faut commencer par l'amour, la paix, alors seulement on se mettra d'accord. Je dirais cette différence entre ces deux points de vue est fondamentale. Oui, parce que ceux qui attendent d'être bien d'accord pour s'aimer, pour faire la paix, pourront jamais n'avoir ni accord, ni amour, ni paix. Mais ceux qui commencent par l'amour, même s'il y a des sentiments divergents au départ, finiront par se mettre d'accord. Et juste pour vous dire un exemple pour illustrer cela. Quand vous voyez un mari et une femme qui s'aiment tendrement, est-ce que vous croyez que c'est l'harmonie de leur vue qui a rapproché leur cœur? Non, pas automatique. C'est plutôt le rapprochement des cœurs qui a produit l'harmonie des vues. Et je dirais, il en arriverait de même sur une plus grande échelle dans une église, quand tous les membres s'aiment les uns les autres. Comme un Pierre, chapitre 1, verset 12, il dit, les uns les autres fortement d'un cœur pur, ils s'aiment d'un cœur pur. Oui, l'amour créerait le désir, le besoin de s'accorder entre vrais chrétiens. Je dirais, avec ce désir, la plupart des causes de divergence seront ôtées et celles qui demeurent seront effacées ou voilées, malgré qu'on en ait, n'est-ce pas ? Je veux m'arrêter en posant la question, qu'en est-il du trait de caractère de l'église de Pessac ? Bien que cette église ne soit pas une église parfaite, on est d'accord, je crois sincèrement que les traits de caractère de Christ sont manifestes dans la vie de ses membres. Petite soit-elle la manifestation, mais il est là. Elle est là. Mais comme nous le savons, cela ne nous donne pas la permission de nous contenter de nous-mêmes et de dormir sur nos oreilles, nos deux oreilles. Vous savez, quand vous lisez encore Éphésiens chapitre 4, versets 13 et 14, un peu plus loin, Paul parle à cette église de ne pas se contenter et dit « J'ai acquis, je m'arrête, c'est tout fini, je tourne les pouces. » Non, non, non. Et c'est l'esprit dans lequel nous devrions être imprégnés aussi, jamais terminé. On a besoin toujours de croître, on a besoin toujours de grandir. Regardez ce que dit Paul là, au verset 13 de Éphésiens chapitre 4. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Ça ne sera pas sur cette terre. Vous voyez, la marge de progression est énorme. Et il va parler non seulement de cela, au verset 14, il dit, « Nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Mais il dit, « Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. » Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. L'Église a besoin de grandir. L'Église a besoin de mûrir. L'Église a besoin des traits de caractère, non pas qu'elle produise, mais c'est que le Saint-Esprit a fait en nous et que ça soit manifeste dans la vie de chacun de nous pour garder, pour préserver l'unité. Oui, si en pratique nous vivons dans l'humilité, la douceur, la patience, l'amour, si nous continuons à se supporter les uns les autres, si nous nous efforçons à conserver l'unité d'esprit, alors nous allons voir cette Église grandir et mûrir comme le Seigneur veut qu'elle soit. Amen.